Inter, un ami nommé Jacques Brel, un feuilleton de la RTBF et des médias francophones publics. Aujourd'hui, la comédie musicale et le cinéma.
Parce que ça justifie 15 années d'amour. Je vous remercie.
D'une part à l'écriture, vous savez, c'est très fatigant d'écrire, c'est très difficile d'écrire. Et on finit par avoir un certain nombre de trucs qui compensent. Et ces trucs seraient sans doute devenus de plus en plus fréquents. Et ensuite, il y a l'animal qui chante sur scène, qui est un être complètement différent. Et l'animal sur scène ne peut pas impunément jouer au gamin, parce que son corps n'est plus un corps de gamin. Donc il y avait une malhonnêteté.
Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines, Madeleine elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le 30-33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine elle aime tant ça. Madeleine c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Mais ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime. Madeleine elle aime tant ça, elle est tellement jolie, elle est tellement, tellement tout ça, elle est toute ma vie. Madeleine, que j'attends là, là, ce soir j'attends Madeleine, mais il pleut sur mes lilas, il pleut comme toutes les semaines, et Madeleine n'arrive pas. Ce soir j'attends Madeleine, c'est trop tard pour 30-33, trop tard pour les frites d'Eugène. Madeleine n'arrive pas. Madeleine c'est mon horizon, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaston. Mais ce soir j'attends Madeleine, il me reste le cinéma, je pourrais lui dire des je t'aime. Madeleine elle aime tant ça, elle est tellement jolie, elle est tellement, tellement tout ça, elle est toute ma vie. Madeleine qui n'arrive pas. Ce soir j'attendais Madeleine, mais j'ai jeté mes lilas, les déjetés comme toutes les semaines. Madeleine ne viendra pas. Ce soir j'attendais Madeleine, tiens, le dernier tram s'en va, on doit fermer chez Eugène. Madeleine ne viendra pas. Madeleine, c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi, mais sûr qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard. Ce soir j'attendais Madeleine, c'est fichu pour le cinéma, je reste avec mes je t'aime. Madeleine ne viendra pas. Elle est pourtant tellement jolie, elle est pourtant tellement tout ça, elle est pourtant toute ma vie. Madeleine qui ne viendra pas, mais demain j'attendrai Madeleine, je rapporterai du lilas, j'en apporterai toute la semaine. Madeleine, elle aimera ça. Demain, j'attendrai Madeleine, prendra le tram 33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aimera ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, tant pis si elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Demain, j'attendrai Madeleine, ouais, on ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime, et Madeleine, elle aimera ça.
Limoges, minuit passé depuis longtemps, et Jacques Brel dîne comme tous les soirs, donc en tournée, très tard, dans le seul café ouvert, qui est celui-ci de la ville de Limoges. La question qu'on se pose, bien sûr, c'est, oui ou non, abandonnez-vous la chanson? Il y a quand même des raisons d'abandonner, on n'abandonne pas comme ça, on ne laisse pas tomber le public, selon la phrase consacrée. Vous le faites pourtant.
Mais non. Il y a 15 ans que je chante.
Oui.
Et c'est marrant, personne n'a voulu que je débute et personne ne veut que je m'arrête.
Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, pauvres et malandrins de manteau de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les mondes de la terre, en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour
à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson.
Ça va continuer dans le côté écriture, enfin. Je veux absolument me débarrasser de mon corps quand j'écris. C'est pas facile à expliquer, ça. Mais tu vois, quand tu écris soleil, et que tu l'écris mobile et que c'est juste pour être lu, tu écris soleil d'une certaine façon. Quand tu écris soleil et que ce soleil, tu dois le retransposer après sur scène, tu n'écris pas soleil, tu écris soleil. Et c'est pas du trucage, mais c'est tout de même le début de la malhonnêteté. De la malhonnêteté, d'une certaine malhonnêteté. Et alors, je ne veux pas. Tu vois, si je continue, je vais être obligé de tricher. Je vais être obligé de raconter encore une fois des chansons que j'ai écrites il y a 10 ans, de les reprendre autrement. Et qu'est-ce qui pourrait arriver? Je vais vivre tranquillement, d'une manière établie, même si je ne chante qu'un petit peu, ça ne m'amuse pas. Tout ce qui n'est pas une bataille, en réalité, ne m'excite pas beaucoup. J'aime bien avoir peur, j'aime bien apprendre. Et je vais reprendre des coups sur la gueule, en plus, ça, c'est certain. J'en ai besoin.
Voilà que l'on se cache quand se lève le vent de peur qu'il ne nous pousse vers des combats trop rudes. Voilà que l'on se cache dans chaque amour naissant qui nous dit après l'autre je suis la certitude. Voilà que l'on se cache, que notre ombre un instant pour mieux fuir l'inquiétude soit l'ombre d'un enfant, l'ombre des habitudes qu'on a plantées en nous quand nous avions 20 ans. Serait-il impossible de vivre debout? Voilà qu'on s'agenouille d'être à moitié tombé sous l'incroyable poids de nos croix illusoires. Voilà qu'on s'agenouille et déjà retombé pour avoir été grand l'espace d'un miroir. Voilà qu'on s'agenouille alors que notre espoir se réduit à prier, alors qu'il est trop tard, qu'on ne peut plus gagner à tous ces rendez-vous que nous avons manqués. Serait-il impossible de vivre debout? Voilà que l'on se couche pour la moindre amourette, pour la moindre fleurette à qui l'on dit toujours. Voilà que l'on se couche pour mieux perdre la tête, pour mieux brûler l'ennui à des reflets d'amour. Voilà que l'on se couche de l'envie qui s'arrête, de prolonger le jour pour mieux faire notre cours à la mort qui s'apprête pour être jusqu'au bout notre propre défaite. Serait-il impossible de vivre debout?
Octobre 66, Olympia de Paris. À 37 ans, Brel fait ses adieux. Il arrête le tour de chant pour ne pas tricher avec son public. La vraie dernière, le 16 mai 67, à Roubaix. Après chaque chanson, s'épongeant le visage dos au public, il murmure à son pianiste « On ne la refera plus ». Avril 98, Opéra de Liège, José Van Damme reprend le rôle-titre de l'homme de la Manche. 30 ans plus tôt, Jacques Brel, auteur de l'adaptation française de cette comédie musicale, endossait avec panache la défroque du chevalier à la triste figure. Cette quête de l'inaccessible étoile, ce rêve impossible, cet amour jusqu'à la déchirure, tout concorde. L'homme chanteur et le mythe fusionnent dans cette aventure taillée à la démesure de son interprète.
On a dit souvent qu'il s'était arrêté parce qu'il était malade. C'est complètement faux. Il a fait de... Moi, j'ai fait l'homme de la Mancha avec lui.
François Robert, orchestrateur.
Où il s'est révélé un acteur étonnant et il s'agissait de musique et de texte qui n'étaient pas de lui. Il avait vu une adaptation très jolie. Mais donc il a réussi parfaitement dans ce domaine-là et fort de cette réussite, je pense qu'il aurait souhaité s'écrire lui-même un texte si la santé le lui avait permis et que c'est ça qui s'est arrêté trop tôt.
Le musical rend solitaire, totalement solitaire. Là, je redécouvre l'équipe, avec tout ce que ça a de beau, tout ce que ça a de fragile, tout ce que ça a de cruel et de tendre en même temps. Alors là, ça m'apporte beaucoup, ça. C'est bien. Ça me fait du bien.
Le 4 octobre dernier, alors que les brouillards d'automne prenaient possession de Bruxelles pour de longues semaines...
Document de Jacques Beaufard.
La première de L'Homme de la Mancha, comédie musicale adaptée en français par Jacques Brel, laissait présager un immense succès. Dans le vieux théâtre royal de la Monnaie, rouge et or, dont les lambris dorés, le grand lustre en cristal et le plafond décoré d'angelots voient depuis chaque soir à 20h accourir un public enthousiaste, Don Quichotte, Jacques Brel, blafard, exsangue, se bat contre les moulins à vent, accompagné de son fidèle valet, Sancho Panza Dario Moreno, pour l'amour d'une extraordinaire dulcinée américaine, Joan Dinner. Le spectacle est beau, dépouillé autant qu'il peut l'être, et l'action qui se déroule dans une prison n'est à aucun moment rompue grâce à un ingénieux dispositif scénique, plateau incliné vers la salle et relié seulement de temps en temps au cintre par un étroit et long escalier permettant des scènes impressionnantes. Le spectacle est beau, oui. Quant à l'œuvre, elle est un des plus beaux cris de folie que j'ai entendus de ma vie, dit Jacques Brel, Don Quichotte.
Alonso Quijana, sa condition, obreau de campagne. Il n'est plus jeune, le corps est décharné, le visage est creusé, le visage est brûlé par des yeux que dévorent des visions intérieures. Il vit retiré, il a le temps de lire. Il lit de l'aube jusqu'au couchant, et parfois encore du couchant jusqu'à l'aube. Et ces milliers de livres l'oppressent, le plongent dans l'angoisse, car par eux, il découvre que l'homme est le bourreau de l'homme. De noire méditation en noire méditation, son esprit se dessèche. Il rejette le triste fardeau du bon sens et conçoit le plus étrange projet jamais imaginé, devenir chevalier errant et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts. Ne plus être le simple Alonso Quijana, mais le preux chevalier connu sous le nom de Don Quixote de la Mancha. Moi, un monde insupportablement. Son étau
tu es tombé trop bas. Tu es trop gris, tu es trop laid, abominable monde. Écoute-moi, un chevalier te défie. Oui, c'est moi, Don Quichotte, seigneur de la Manche, pour toujours au service de l'honneur. Car j'ai l'honneur d'être moi, Don Quichotte sans peur, et de vendre l'histoire chantant moi. D'ailleurs, qu'importe l'histoire, pourvu qu'elle mène à la gloire.
Et moi, je suis Sancho, 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 sans valet. Sans fils, sans frère, Sancho, son seul amigo, son seul suivant, et pour toujours, et j'en suis fier.
Regardez-moi, vous les dragons, les sorciers, les sorcières, votre règne se meurt aujourd'hui. Regardez-moi, la vertu flambe dans ma panière. Regardez-moi, un chevalier vous défie.
France Inter.
Monsieur, que pensez-vous de ce spectacle ?
C'est très bien.
Et Jacques Brel ?
C'est très bien.
Madame, vous avez aimé le spectacle ?
Oui, monsieur, beaucoup.
Pourquoi ?
Parce que je le trouvais admirable, du début au fin.
Monsieur, vous avez aimé le spectacle ?
Énormément.
Pourquoi ? Pour quelle raison exactement ?
Spécialement pour le jeu de Jacques Brel, qui est remarquable. Et la mise en scène qui est de tout premier ordre.
C'est absolument magnifique. Une réussite pour Jacques Brel, certainement.
Vous avez retrouvé le Jacques Brel du tour de chant,
ah,
c'est
oui.
Tout à fait autre chose.
Non, non, l'âme reste la même.
Monsieur, que pensez-vous de ce spectacle ?
Merveilleux.
Et Jacques Brel ?
Comme toujours, sensationnel.
Juliette Gréco, que pensez-vous de ce spectacle ?
C'est un spectacle splendide. Je suis enchantée d'être venue un jour plus tôt exprès à Bruxelles.
Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement ?
Le tout, c'est un très beau spectacle. C'est très bien mis en scène, c'est très bien monté. Puis c'est admirablement bien interprété. Puis Jacques est merveilleux, quoi.
Monsieur Barclay, oui. Que pensez-vous du spectacle ?
Bon, vous savez, moi, c'est déjà la deuxième fois que je le vois en français, puisque j'étais à la première. Et la troisième fois que je le vois... En Amérique, eh bien, je trouve que ce spectacle qui est maintenant vraiment très, très au point va tout casser à Paris quand il va arriver, c'est-à-dire au début du mois de décembre. Vraiment, je pense que ça va tout casser.
Alors, vous qui avez justement vu les deux versions, selon vous, est-ce que la française est aussi bonne que l'américaine ?
Très franchement, je trouve cette version beaucoup plus intéressante et plus percutante et aussi plus drôle. Il y a beaucoup plus d'humour et beaucoup plus de choses qui vous frappent, franchement.
Jacques Brel, pourquoi avez-vous choisi d'adapter L'Homme de la Mancha ?
Parce que j'avais vu le spectacle à New York et que je le trouvais joli. Voilà, et puis que l'idée de transposition de la réalité dans le rêve par de Don Quichotte me plaît bien.
Et qu'est-ce qui vous a plu particulièrement dans l'histoire et dans la comédie musicale que vous avez vue, justement ?
Mais c'est que c'est plein de rêves et de tendresse et de folie, voilà, c'est ça. Les notions auxquelles je tiens particulièrement. C'est pas une histoire d'argent, ni une histoire de fesses, enfin, voilà.
Mais c'est plutôt le sujet ou bien le fait qu'il s'agissait déjà d'une comédie musicale qui vous a quand même poussé ?
Non, ça me semblait très bien fait, voilà. Tout ça me semblait très bien fait. Et il y a une très belle architecture, je trouve, là-dedans. Et c'est pour ça que c'est ça qui m'a excité.
Et le personnage de Don Quichotte ?
C'est un personnage assez extraordinaire, enfin.
Il vous plaisait avant, je pense que vous aviez une certaine sympathie
pour
le personnage.
Oui, bien sûr. Plus pour Cervantes, sans doute, que pour Don Quichotte, sans doute.
Pourquoi ?
Parce que Cervantes est Don Quichotte, n'est-ce pas ? Puisqu'il l'a inventé. C'est qu'il l'était relativement, ou qu'il savait de quoi il parlait, mieux que moi.
Pensez avoir certains points communs, vous, Jacques Brel, avec...
Tout le monde, c'est une question qu'on m'a déjà posée. Tout le monde a un côté Don Quichottesque, n'est-ce pas ? Je l'espère, en tout cas.
En quoi croyez-vous, vous, le plus ?
En la patience des hommes. C'est incroyable ce que les hommes sont patients. Pour un petit rêve, ils supportent n'importe quoi. Même le travail.
Faites-moi,
monde, insupportable monde, c'en est trop, tu es tombé trop bas. Tu es trop gris, tu es trop laid, abominable monde, écoute-moi, un chevalier te défie. Oui, c'est moi, Don Quichotte, seigneur de la Mancha.
José Van Damme, baryton.
C'est une envie personnelle parce que j'ai déjà souvent abordé le personnage de Don Quichotte en opéra, le Don Quichotte de Massenet en mélodie. Vous avez des mélodies de Ravel, vous en avez de Ibert, il y a plein. C'est un personnage mythique, Don Quichotte. C'est comme l'autre Don qui est Don Juan. Ce sont des mythes. Et le rôle de Don Quichotte est un rôle qui me plaît beaucoup parce qu'il y a... Il y a ce côté aventurier, ce côté rêveur, idéaliste, que j'aime beaucoup. Et donc, ce personnage de Don Quichotte, l'homme de la Mancha, un jour, je me suis dit, tiens, pourquoi pas voir de ce côté-là ce que... J'ai eu le livret, et j'avais écouté la cassette déjà à l'époque avec Brel. Et c'est une œuvre qui tient bien la route. Les personnages sont intéressants. Ce qui m'intéresse aussi, bon, d'abord, c'était le fait que ce soit Brel qui ait écrit cette adaptation française. C'est un petit peu un hommage, si vous voulez, aussi à Brel. Et le fait aussi, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est un rôle, en fait, où on chante, mais où on joue aussi. C'est un rôle de comédien, où il y a un double personnage, même presque triple personnage. Vous avez Cervantes qui devient Don Quichotte, qui devient Alonso Quijana, qui devient Don Quichotte. Donc vous avez trois personnages, et c'est toujours intéressant de pouvoir changer de personnage en scène comme ça.
Inter.
Ce qui est sûr, c'est que Brel était un chanteur. Il y avait par exemple Brel et il y avait Piaf qui étaient des chanteurs qui auraient pu chanter dans une salle sans micro. Parce que c'était des gens qui avaient ce qu'on parle souvent de voix naturelle. En fait, il faudrait parler de technique naturelle qui avait cette puissance qu'on va chercher sur le diaphragme, nous chanteurs d'opéra. Et Brel, quand il chantait fort, on l'entendait bien même sans micro. Ça s'entend quand on le voit à la télé ou quand on l'entend sur disque, on sent que ce sont des voix appuyées, comme on dit.
Pour toi, casque d'or de mandarino, que j'espérais depuis toujours, le ciel t'envoie comme une étoile, à moi la gloire, à moi l'amour.
casque d'or de mandarino. Je le jure sur ton histoire, je le jure sur mes victoires. Je serai ta vie, tu seras ma gloire.
C'est Jérôme Bosch qui dessinerait pour un quotidien. Voilà, c'est ça le livre. Vous voyez, quotidien, ça c'est ça, ça. Il y a la folie, il y a de la grandeur, il y a un second degré constant. Mais si les gens veulent pas du second degré, le premier degré est tellement beau que ça n'a pas d'importance. C'est ça. Être lyrique, c'est chanter tellement fort que si les gens sentent pas vos cœurs, votre cœur, ils voient vos dents. C'est ça être lyrique. Vous comprenez? Et ils transpirent. Ah, ils vous croient, parce qu'on transpire. Mais les types qui sont lyriques savent pas qu'ils transpirent. Vous comprenez? Don Quichotte, pour moi, c'est le symbole de la minorité. C'est un type qui tend la main, tout de même. Il donne priorité à ses rêves. C'est ça qui est important. Il va où il croit que c'est beau. Il y a, le mot est dans Cervantes. La folie suprême n'est-elle pas de voir la vie telle qu'elle est et non telle qu'elle devrait être? C'est ça, Don Quichotte.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille, et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile.
Gilles Overbeck.
Au micro de Gérard Vallet.
Devant le succès de L'Homme de la Mancha, Maurice Haussmann avait été approché par Jean-Marc Landier, qui était un de ses metteurs en scène et aussi ami, qui avait écrit un livret d'une comédie musicale qui devait s'appeler Le Voyage sur la Lune. Bon, on a lu le livret, il était intéressant, on l'a présenté à plusieurs personnes. François Robert dit « Je suis d'accord de faire une orchestration ». Jacques dit « Je suis d'accord d'écrire les 4-5 chansons nécessaires à la comédie musicale, mais je suis occupé à telle période, je chante à tel endroit, je ne peux donc pas venir à Bruxelles pour cela, sauf deux fois, c'est-à-dire à la générale et à la première ». C'était assez original comme idée. L'idée était que les terriens parlaient et les lunaires chantaient. C'est comme ça qu'on devait les reconnaître quand ils évoluaient sur la scène. Et ça ne marchait pas, la coordination ne s'est pas faite, rien ne passait. Et Jacques était là, donc, à la Générale, à l'entracte de la Générale. Nous allons dans un des bistrots qui n'existe plus maintenant, à côté du Théâtre de la Monnaie. Et je voyais la déception de Brel. Et il me dit, je suis très embêté, j'aime beaucoup Maurice Haussmann, c'est pour ça que j'ai accepté cette histoire-ci. Mais qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette histoire? Moi, je lui dis, écoute, sincèrement, tu me poses la question... Tu ne peux pas laisser passer ce spectacle parce que c'est ta réputation qui est en jeu. On va dire, Brel est fini, etc., etc. Et tu vas prendre toute la responsabilité. Il dit, oui, je suis très, très embarrassé. Comment je vais m'en sortir? Je n'en sais rien. Mais je suis assez d'accord avec toi. Il dit, ça ne peut pas passer. La pause de l'entracte se termine. Chacun rentre au théâtre. Et on ne voit pas ni Maurice Haussmann ni Jacques Brel revenir dans la salle. Tout le monde est là, on attend. Et ces deux messieurs reviennent au bout d'une bonne demi-heure. Et M. Haussmann fait une annonce, il dit, voilà, le spectacle est annulé. C'est le droit à l'erreur, ça ne peut pas passer plus loin parce que, justement, la réputation de Brel est en jeu, etc. Mais Brel, pendant cette demi-heure, avait parlé avec Haussmann du coût du spectacle. Il ne se rendait pas compte, lui, puisqu'il n'était pas concerné dans la production. Et Maurice Haussmann lui dit, voilà, j'ai tel frais, ça va coûter autant, etc. Alors le Jacques Brel, et ça c'est bien la démonstration du personnage, a dit, bon, eh bien, Monsieur Haussmann, tous les ans, je viens à Bruxelles et je viens vous porter, chaque fois, ma contribution pour vous rembourser les frais que vous avez engagés, parce que je ne veux pas que ça coûte un franc, donc, à la communauté. Et il a tenu parole, et il venait régulièrement, donc, à Bruxelles, voir Maurice Haussmann, il rapportait son petit... Je crois que c'est unique dans les annales du spectacle.
C'est difficile de monter une comédie musicale. Je crois qu'il y a deux choses très très difficiles sur Terre. C'est garder intact un troupeau d'éléphants au sommet de l'Himalaya et monter une comédie musicale. Je crois que vraiment ces deux choses-là sont assez difficiles. Alors évidemment, comme c'est difficile, c'est excitant. Et mon vice, ça serait plutôt d'aimer le danger. Ça, c'est certain. Alors là, ça m'excite pas mal. Enfin, ça n'est pas un défi. Vous savez, c'est une façon de... C'est une façon de sentir qu'on vit, c'est tout. C'est pas plus que ça et pas moins que ça non plus.
France Inter, un ami nommé Jacques Brel. Profession artiste. Après la scène, le cinéma l'attire sous d'autres projecteurs. Il pratique ce septième art comme de coutume, passionnément, au point de vouloir projeter son imaginaire sur grand écran et de réaliser deux films, France et Far West.
J'ai tourné un premier film tout à fait par hasard. Je pensais pas du tout faire tourner. Puis c'est Kayat que j'ai venu me chercher. Puis ça s'est passé bizarrement à Marseille. Enfin, puis je suis ravi de l'avoir fait. J'ai dit oui comme ça. J'avais pas bien compris l'histoire qu'il me racontait. J'étais abruti, je sortais de scène. Puis j'ai dit oui à ce type qui avait l'air convaincant. Il est convaincant. Et je peux pas dire le soir du premier jour de tournage, mais enfin, avant la fin de la première semaine, je me suis dit le côté passionnant, c'est la mise en scène. Et après, je me suis bien essayé d'un peu apprendre, quand même. Il faut apprendre. Je sais en tout cas que ce qui est le plus fatigant de tout, ce n'est pas d'être comédien, ce n'est pas d'être metteur en scène, ce n'est pas d'être le dialoguiste, parce qu'il y a des choses qui changent encore sur le plateau, c'est de sauter de l'un à l'autre. C'est ça qui est épuisant. Il faudrait pouvoir être un jour metteur en scène, un jour comédien, un jour dialoguiste, enfin, ou scénariste. Alors j'y arrive avec un certain nombre de procédés techniques et une méthode de préparation. Le film a été très très préparé. J'ai une imagination qui s'arrête absolument aux endroits. En sorte que, autrefois, quand j'écrivais des chansons, j'étais obligé de les dessiner. Je dessinais mes chansons, je dessinais le décor. Or, à la fin, par exemple, on ne parlait pas du tout. Je me souviens très nettement d'une chanson qui s'appelait Madeleine. Tout se passait devant une caserne, c'était un soldat. On ne sait pas dans la chanson que c'est un soldat, finalement. Mais j'ai dessiné son uniforme, et puis j'ai dessiné la caserne du petit château. C'était la caserne du château, je ne sais pas pourquoi. Et puis j'ai greffé le 33, une baraque de frites. Enfin, il fallait que je dessine les choses. Et ici, je n'ai écrit les scènes qu'après les repérages. Je n'ai pas écrit un mot avant de savoir où. Donc à ce moment-là, la mise en place est instantanée. Elle est automatique. En sachant déjà si c'est un plan séquence ou un plan découpé. Donc chaque scène, je la connais pratiquement totalement par cœur. Il y a 5 ou 10% d'improvisation, mais pas plus. L'idée initiale, c'était une histoire d'amour entre des gens pas bons. Parce que toutes les histoires d'amour, en général, qu'on voit, qu'on lit, sont des histoires d'amour. C'est Roméo et Juliette, toutes les histoires d'amour, c'est Roméo et Juliette. Alors, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont bien portants, puis, en général, au début, en tout cas. Et je suis parti des histoires d'amour avec des gens pas jeunes, pas beaux, qui sont pas bien.
Vous êtes content, vous m'avez ridiculisé devant tout le monde.
Pourquoi?
Oui, d'ailleurs, ils peuvent rire, c'est réussi. Une robe toute neuve.
Pourquoi êtes-vous venu avec moi aussi,
hein? Pour éviter cela, justement.
Éviter quoi?
Pour vous protéger.
Me protéger de quoi?
Mais de leur méchanceté. Vous ne comprenez donc pas, c'est encore une de leurs sinistres farces. J'espérais qu'étant avec vous, ils se seraient abstenus. Mais non, ils n'ont pas hésité à tripatouiller ce stupide bateau à roulettes.
C'est pas eux qui ont tripatouillé ce truc à roulettes. C'est moi qui ne sais pas me servir de ce machin.
Oh, c'est parfait, vous ne savez pas comment marche ce machin. Et vous n'hésitez pas à me demander de monter avec vous.
Mais c'est vous qui m'avez demandé de venir avec moi.
Ce chien se tait.
Tais-toi. Je m'excuse.
Je vous prie de bien vouloir m'excuser.
Je m'excuse de bien vous prier, mais je veux pas que vous insultiez ces gens. Ce sont mes amis. Et ils m'aiment, je les aime. Maman a bien raison quand elle dit toujours que ce sont les femmes, n'est-ce pas? Les femmes qui...
Les femmes qui quoi?
Les femmes qui rien, qui rien. Ah, bon.
Monsieur Léo, c'est moi qui vous prie de bien vouloir m'excuser. Vos amis sont des gens exquis, parfaitement exquis. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je les attaque. Je suis tout à fait de leur avis. Vous êtes un con.
Il dirige comme il chante. Barbara.
Et il accouche, moi je peux pas parler de comédien, mais enfin il accouche ses comédiens. Et d'abord parce qu'il les aime, qu'il a une sensibilité extraordinaire. C'est un homme qui voit tout et qui entend tout et qui a un sens prodigieux déjà de la scène. Et je trouve qu'il est fantastique dans la mesure où il est des deux côtés, c'est-à-dire qu'il est à la fois... Comme comédien et à la fois comme metteur en scène. En plus, il tourne ce film dans un pays qu'il connaît, qu'il aime, dont il est passionnément amoureux. Et je crois que c'est un film complètement fantastique, complètement romantique, très allemand, je crois. C'est. On a la sensation de faire une chose très extraordinaire. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, ce que je peux vous dire pour moi, c'est rien, c'est que. Je crois qu'il faut obéir. Je crois que c'est ça qui me paraît le plus difficile au cinéma. Qu'on est complètement prisonnier. Que finalement, enfin, moi j'ai l'impression de rien faire du tout. C'est ou l'image ou le metteur en scène. Qu'on est une pâte à modeler. Moi j'obéis mal parce que. Enfin, lui, je crois que je peux obéir. C'est la dernière personne à qui je peux obéir. Moi j'obéis mal parce que quand on a pendant 20 ans subi sa propre loi, c'est difficile tout d'un coup de se mettre à obéir. Mais je crois que la chose la plus importante, c'est d'être complètement. Devenir avec beaucoup d'humilité et d'oublier complètement. Enfin, pour se soumettre non pas aux volontés, mais aux désirs. Enfin, ce qui est important, c'est d'essayer d'être le plus près de ce qu'il désire lui. Et ça, si vous voulez, ça m'est facile dans la mesure où je l'aime, et je crois que c'est très important. Je crois aussi que personne ne m'aurait jamais proposé de faire du cinéma, parce que c'était, physiquement pour moi, c'est une chose qui était assez inattendue, et qu'avec lui, c'est fantastique. Maintenant, je ne pense pas que je ferai jamais du cinéma. Pour l'instant, si vous voulez, ça ne m'intéresse pas. Je crois que le cinéma, c'est intéressant de l'autre côté. C'est intéressant de voir... diriger, de voir la technique, de voir, enfin, ça m'embête de parler à M. Levent parce qu'il est là, mais enfin, de voir comment les choses s'éclairent. Bon, ça, c'est passionnant. Mais pour l'instant, pour moi, c'est ce côté-là que ça m'intéresse. Sinon, non, je ne sais pas, on est prisonnier, on vous met des bouts de craie, on vous dit là, tu ne dépasses pas, là, il ne faut pas dépasser, là, je ne sais pas, c'est tout à coup un emprisonnement.
France Inter, un ami nommé Jacques Brel. Un feuilleton de la RTBF et des médias francophones publics.
J'ai longtemps demandé, quand un film est mauvais, pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce film? Pourquoi il est mauvais?
Selim Sasson, critique de cinéma.
Pourquoi est-ce qu'il est mauvais? Mais D'abord, il y a les dialogues. Les textes ne sont pas toujours... Et quand il se lance dans un monologue, notamment dans France, Quand Franz, qui est un ancien mercenaire, se lance dans son monologue sur les mercenaires, etc., il faut avouer que ce n'est pas très bon. Les scènes un peu féliniennes, avec la calèche, etc., ben, Fellini avait fait mieux. Simone Max, bon, enfin, je ne sais pas. Mais là aussi, si, Fellini aurait certainement mieux utilisé Simone Max que lui. Hein. L'interprétation, mais quand l'interprétation n'est pas à la hauteur, c'est peut-être quand même aussi parce que le réalisateur n'a pas su dominer ses interprètes ou mettre en valeur véritablement leur qualité. Ça s'apprend, ces choses-là, vous savez. Mais je pense que Brel était quand même très braqué sur lui, et peut-être trop braqué sur lui-même que pour penser à confier sa pensée aux autres. Enfin, mais là, je vous dis, vous savez, moi, je ne vais pas faire de pronostic sur un futur qui n'existera jamais. Mais je pense qu'avec la volonté qu'il avait de faire des films, il aurait pu arriver à en faire de très convenables. Oui, je pense. Ça, je crois. Oui.
Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault.
Moi, j'ai tellement d'admiration pour toi, j'aime tellement t'entendre. Raconte-moi un peu, dans ton film
oui.
que tu montes en ce moment, alors c'est oui. ton dernier film, d'abord oui. comment s'appelle-t-il ?
Le Far West.
Le Far West, oui. Vaste programme. Oui. Et est-ce que tu chantes ?
Je chantonne une chanson, oui.
Tu
une espèce de feu de camp. Enfin. C'est un Far West qui se passe en Belgique.
Ah oui.
Ça n'a déjà rien à voir avec le Far West.
Dans le plat pays ?
Non, pas dans le plat pays, non, dans les charbonnages, enfin, du côté de Liège, tout ça. Alors là, je chante une chanson, soi-disant cow-boy. Enfin.
Alors, tu es à la fois interprète et metteur en scène
oui.
de ton film.
Oui.
Quel est le thème, sans indiscrétion ?
Eh bien, c'est le droit d'être idiot. C'est ça. Je trouve que les gens ont le droit. On a le droit d'être crétin, quoi. On a le droit d'être idiot. Avant, les crétins étaient bergers. Maintenant, on ne sait plus très bien ce qu'on peut en faire, enfin.
Oui.
C'est plus difficile. Et ce sont des hommes, ce sont des Belges, enfin, qui décident d'aller au Far West. Et puis, enfin, ils ont l'accent. Puis, ils n'ont pas de chevaux, ils sont à vélo.
Ah, c'est merveilleux.
Et ils cherchent un coin, comme et c'est un charbonnage. Voilà.
Ah, oui. C'est merveilleux. Oui.
Lorsqu'il a fait, il en allait à peu près de même. Mais là, je me souviens quand même d'une chose. J'avais été le voir, il y avait une scène, il y avait une séquence qu'il tournait au TRM. Et c'est une séquence au cours de laquelle... La petite mulâtresse est dans sa chaise de paralytique. Brel intervient, la soulève de sa chaise et valse avec elle. Et il a fait que ça pendant tout l'après-midi. Il était un des premiers à avoir sur sa caméra, avoir un appareil qui lui permettait de visionner immédiatement ce qu'il venait d'enregistrer. Et alors, chaque fois, il faisait la scène, il allait voir, il n'était pas content, il recommençait, il refaisait la scène, allait voir, il n'était pas content, enfin, etc. Bon, c'était à la fois extrêmement intéressant, comme conscience professionnelle. Personnellement, ça ne m'amusait pas tellement, parce que ça ne me faisait pas grand-chose à filmer, évidemment, parce que je ne pouvais pas filmer 20 fois la même opération, quand même. Mais il y a deux éléments qui font que ce souvenir devient intéressant. D'abord, c'est qu'on a su, après coup, qu'à ce moment-là, il était déjà malade, en fait, et que l'homme que je voyais devenir de plus en plus blême et de plus en plus transpirant, c'était bien un homme malade qui, néanmoins, essayait d'aller... jusqu'à la limite de ses forces pour essayer quand même de faire mieux ce qu'il voulait faire. Et puis ce qui est tout à fait bien, c'est que dans son film, cette séquence a disparu. Donc finalement, après avoir déployé tout cet effort, il n'a pas fait. Là. Alors oui, ça c'est quand même pas mal.
Alina. Et les autres ? Où sont les autres ?
Ils sont partis. Et leur aussi. J'ai tout fait pour les empêcher, Jacques. Mais la vue de l'or les rendait fous. Ils étaient comme des rats hystériques. Voilà, c'est fini.
Non, c'est pas fini. C'est pas fini, tu sais. C'est pas fini, Gabriel. On va repartir, hein. On va trouver un chariot.
on va trouver d'autres filons d'or. Hein? Le Far West, c'est jamais fini, tu sais. C'est jamais fini. Hein, Lina? C'est jamais fini, tu sais. Non, c'est jamais fini. C'est jamais fini.
Si ça prend un bon beat, béton, n'est-ce pas ? C'est bien fait pour ma gueule, n'est-ce pas ? Il faudrait surtout pas que je dise que c'est des cornichons après. Ça serait malhonnête, vous voyez ? Ça serait malhonnête. C'est quand on fait quelque chose, quoi qu'il arrive avec cette chose, c'est bien fait pour sa gueule. On fait quelque chose. Mais je préfère de loin me pulvériser la gueule que de rester immobile et dire que je vais faire quelque chose ou que ce que les autres font est inintéressant. Je préfère aller voir.
Mich Brel à propos de Far West.
Je partage le sentiment avec Claude Lelouch qui a toujours dit « ce film reste dans un tiroir et ce film ressortira ». Oui, il y a de grosses erreurs. J'ai pas été aussi catastrophée que lui. Se tromper, il a pris un bide monumental, mais c'est fait. C'est positif pour moi.
De Rotterdam à Santiago et d'Amsterdam à Varsovie, de Cracovie à San Diego, de drame en dame passe la vie, de peu à peu, de cœur, en peur, de port en port, le temps d'une fleur, et l'on s'endort. Le temps d'un rêve et l'on est mort. De terre en terre, de place en place, de jeune vieille en vieille grâce, de guerre en guerre, de guerre lasse, la mort nous veille, la mort nous glace, mais de bière en de foire en foire, de verre en verre, de boire en boire, je mords encore à pleines dents, je suis un mort encore vivant.
Je ne sais pas le cinéma, n'est-ce pas ? C'est en ça que c'est passionnant. Ce qui est passionnant, c'est l'école. C'est apprendre les choses. C'est merveilleux. Enfin, c'est de nouveau l'enfance qui recommence, vous comprenez ?
Je ne sais pas pourquoi la pluie quitte là-haut ses oripeaux, que sont ces lourds nuages gris pour se coucher sur nos coteaux. Je ne sais pas pourquoi le vent s'amuse dans les matins clairs à colporter ses rires d'enfants, carillons frêles de l'hiver. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore. Je ne sais pas pourquoi la route qui me pousse vers la cité a l'odeur froide des déroutes de peuplier en peuplier. Je ne sais pas pourquoi le voile du brouillard glacé qui m'escorte me fait penser aux cathédrales où l'on prie pour les amours mortes. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore. Je ne sais pas pourquoi la ville m'ouvre ses remparts de faubourg pour me laisser glisser fragile sous la pluie parmi ses amours. Je ne sais pas pourquoi ces gens, pour mieux célébrer ma défaite, pour mieux suivre l'enterrement, ont le nez collé aux fenêtres. Je ne sais rien. rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore. Je ne sais pas pourquoi ces rues s'ouvrent devant moi une à une, vierges et froides, froides et nues, rien que mes pas et pas de lune. Je ne sais pas pourquoi la nuit, jouant de moi comme guitare, m'a forcé à venir ici pour pleurer devant cette gare. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore. Je ne sais pas à quelle heure part ce triste train pour Amsterdam qu'un couple doit prendre ce soir, un couple dont elle est la femme. Je ne sais pas pour quel port part d'Amsterdam ce grand navire qui brise mon cœur et mon corps, notre amour et mon avenir. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore. Je ne sais pas pourquoi la pluie quitte là-haut ses oripeaux, que sont ces lourds nuages gris pour se coucher sur nos coteaux. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore.
Brel, aimé jusqu'à la déchirure. Une série proposée par la Communauté des radios publiques de langue française et présentée par Morane. Archives sonores et production, INA, France Inter, Radio Suisse Romande, Société Radio-Canada et RTBF. Producteurs délégués Hélène Azera et Jean-Charles Simon. Mixage, Roland Fortan, Jean Cobergs, Pierre-Joseph Ranquin. Réalisation Ninette Godefroy, une production de Philippe Luters.